Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite un excellent début de week-end et de très belles fins de vacances. Bienvenue dans votre émission culturelle Culturez-vous sur IDFM Radio. Je suis ravie de partager avec vous les 30 minutes qui vont suivre sur le 98 de la bande FM. Aujourd'hui, vous allez découvrir Antoine Fortier, un contre-ténor français. Sa voix riche et musicale lui permet d'interpréter le grand répertoire classique et baroque depuis l'âge de 15 ans, où il se fait repérer en 2006 par le chef d'orchestre Philippe Laurent. S'en suivra une série de concerts plébiscités où il interprétera le fameux « Pied de Jésus » dans le Requiem de Gabriel Fauré. Antoine s'est formé auprès des plus grands chanteurs de l'Opéra de Paris, tant pour la technique vocale aux côtés par exemple de Caroline Dumas, soprano et professeur au sein de l'École Normale Supérieure de Musique de Paris, que pour l'interprétation dramatique lors de ses classes au cours d'art dramatique René Simon, où il sera élève plusieurs années auprès de la comédienne et professeure Cecilia Word. Vous aurez le plaisir d'entendre quelques extraits d'opéra interprétés par le contre-ténor Antoine Fortier. Saurez-vous les retrouver ? Antoine rendra également hommage à Dalida, disparue il y a 35 ans, en choisissant un titre qu'il affectionne tout particulièrement. Comme chaque semaine, nous clôturerons l'émission avec des idées de sorties culturelles valdoisiennes. J'ai le plaisir d'accueillir mon invité, Antoine Fortier. Bonjour Antoine Fortier.
Bonjour Nalouène.
Vous avez le chant lyrique pour passion, c'est même votre métier. Pouvez-vous dire qu'il s'agit d'une vocation ou est-ce une personne en particulier qui a repéré votre don pour ce style musical ?
C'est vrai que j'ai toujours chanté, je rêvais secrètement de faire du classique, c'est vrai, mais c'était pas une vocation naturelle. Et c'est le chef d'orchestre et de chœur Philippe Laurent qui a été le premier à déceler en moi cette voix qui sortait de l'ordinaire. Et de la chorale où je chantais avec mes camarades, je suis vite passé sur le devant de la scène. Et on m'a confié assez vite finalement de plus en plus de solos, de petits rôles dans des concerts. Et mes vrais débuts professionnels, si on peut dire, avec le Requiem de Fauré en 2006, voilà, où j'ai interprété pour la première fois le célèbre Piezou aux côtés du célèbre baryton Philippe de Gaetz. Et j'avais 15 ans. Donc c'est mes débuts, c'est vrai, et ma voix, bon, était encore toute jeune, mais déjà avec des aigus qui étaient assez rares et pleins. Et c'est mon professeur de l'époque qui l'a remarqué tout de suite, hein, qui a décelé dans ma voix plusieurs qualités, m'a fait comprendre que je devais travailler sans relâche aussi pour obtenir le meilleur et qu'avec ma voix, finalement, ça valait le coup. et en tout cas, ça valait la peine de se mettre au travail. C'est vrai que ceux qui ont un petit talent, souvent, se reposent sur cet acquis et ne travaillent plus. Et non, c'est vrai que le chant et le travail de la voix, c'est devenu, et c'est un exercice quotidien de tous les jours, hein, de toute une vie même. Même si le chant doit évidemment rester une expression de joie et de bonheur, elle doit rester libre malgré tout, libre dans la direction de l'interprétation qu'on lui donne surtout. Alors je fais volontiers partie des artistes qui aiment la vie, qui sont assez exubérants, mais c'est vrai qu'on doit apprendre à se gérer et à calmer nos ardeurs, parce que le chant et la technique vocale, c'est quand même quelque chose de très précis. Je consommais beaucoup et je consomme toujours beaucoup de musique, hein. J'écoute beaucoup de choses, même des choses très différentes, d'univers très différents, et c'est important pour apprendre d'écouter, de passer des heures, pour avoir des repères également musicaux. Et ça m'est très utile au travail de ma voix au quotidien.
Alors ça vous a amené à suivre un cursus de haut niveau en vous formant à l'École Normale Supérieure de Musique de Paris. Parlez-nous de votre parcours de formation.
Oui, bah écoutez, j'ai eu la chance, l'immense chance et le plaisir d'intégrer la classe de chant de Caroline Dumas, voilà, qui est une grande cantatrice soprano de l'Opéra de Paris. C'était l'élève la plus emblématique, c'est toujours l'élève la plus emblématique du célèbre baryton Charles Panzera. Voilà, célèbre baryton, et c'était sa dernière élève d'ailleurs. J'ai beaucoup appris auprès d'elle, elle a travaillé quand même sous la direction des plus grands chefs d'orchestre, Georges Prêtre, Michel Plasson par exemple, et ça a été un honneur, c'est une richesse, surtout d'enseignement, d'avoir pu travailler à ses côtés. J'ai passé 5 années à ses côtés, à l'École Normale Supérieure de Musique. Ça a été de formidables années, hein. J'ai vraiment de chouettes souvenirs. C'est elle aussi d'ailleurs qui est la créatrice en France du rôle de Lulu d'Albanberg, et c'est la seule, je crois, française à avoir interprété ce rôle, en français en tout cas. Bon, je ne sais si elle nous écoute aujourd'hui, mais en tout cas j'ai une forte pensée pour elle et je l'embrasse très fort.
Aujourd'hui vous êtes contre-ténor, c'est votre métier. Pourriez-vous expliquer à nos auditeurs, Antoine Fortier, quelles sont les caractéristiques d'un contre-ténor et quels sont les rôles qui lui sont confiés ?
Vaste mystère. Non mais en musique classique, c'est vrai, bon, un contre-ténor utilise voilà principalement sa voix de fausset, donc c'est sa voix de tête. La tessiture d'un contre-ténor peut correspondre finalement à celle d'un soprano ou même d'un contralto, ça peut vraiment varier selon le répertoire et les airs. La voix de contre-ténor peut être aussi d'ailleurs appelée alto masculin ou même falsettiste. Voilà, il y a plusieurs synonymes. Ce sont tous des termes synonymes, et si bien que notre répertoire en tant que contre-ténor peut s'étendre du registre de contralto à celui de soprano, voire même de soprano léger parfois. Donc il y a vraiment une diversité de répertoires et une multitude de timbres différents finalement. Alors c'est vrai que c'est plutôt au cours de la Renaissance, pendant la période baroque, notamment en Angleterre et en Allemagne, en France un peu moins au départ, que les castrats comme le célèbre Farinelli, pour ne citer que lui, évidemment, ont connu les heures de gloire. Et c'est vrai qu'après, à la période classique, les contre-ténors n'ont pratiquement plus été utilisés. Aussi parce qu'évidemment, les castrats disparaissaient de plus en plus. Donc c'est vrai qu'il faudra attendre le milieu du XXe siècle pour que les contre-ténors soient remis à l'honneur finalement, et avec toute la redécouverte de ce répertoire de musique ancienne. Voilà, la voix de contre-ténor aujourd'hui reste rare, mais bon, on est quand même de plus en plus nombreux, et heureusement, c'est tant mieux. Moi, je pense qu'il est impératif de prendre connaissance de ce qui a été fait avant soi, mais on doit malgré tout essayer d'imposer sa propre marque en tant qu'interprète, avec nos qualités, nos défauts. Chacun, on a tous notre propre timbre et notre propre identité vocale, et c'est vrai que bon, ce serait stupide finalement de vouloir imiter mes collègues. Il y a de la place pour tout le monde. Le répertoire principal des contre-ténors, c'est le répertoire de la musique baroque, 17e et 18e siècle, que ce soit en France, en Italie, même en Allemagne aussi. Principalement, c'est le répertoire baroque qui prime pour les contre-ténors encore aujourd'hui.
Vous concernant, votre voix céleste de contre-ténor vous permet également d'aborder le répertoire sacré. Pouvez-vous nous citer quels sont les chants que l'on vous demande le plus souvent dans ce domaine et dans quels lieux et à quelles occasions vous les avez interprétés ?
Alors, la musique sacrée, le répertoire sacré, large répertoire également, surtout pour les contre-ténors. Tout me tient à cœur dans le répertoire sacré parce que déjà, on interprète ses œuvres le plus souvent dans des églises, dans des aux édifices religieux, et c'est toujours avec beaucoup d'émotion. Il y a toujours une émotion particulière. J'ai interprété à plusieurs reprises le Stabat Mater de Pergolèse, par exemple, que ce soit d'ailleurs avec des chœurs d'adultes ou des chœurs d'enfants. Le Requiem de Forêt, évidemment, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par ça, donc j'ai chanté aussi à plusieurs reprises. Alors, tous les Ave Maria, Caccini, ceux de Schubert, Gounod également, et bientôt d'ailleurs les Requiem de Mozart. C'est vrai que je saisis toujours toutes les bonnes occasions de chanter ces œuvres intemporelles. J'ai toujours été très proche et j'ai été élevé, même sculpté par la religion catholique, c'est vrai. J'aime écouter et chanter de la musique sacrée depuis toujours. Et c'est vrai que quand je suis entré au conservatoire de musique, j'ai tout de suite aimé les oratorios, les psaumes, la musique sacrée en général. Je me souviens à l'église, quand arrivait le moment des cantiques, c'est là où je me trouvais le plus proche de Dieu. C'est vrai que c'est une exaltation extraordinaire, c'est une émotion particulière et qui passe par la voix, par la musique. C'est vrai que c'est un souffle qu'on ne peut traduire que par la musique. Et d'ailleurs, dans toutes les religions sont accompagnées par la musique.
Nous allons maintenant écouter des extraits d'opéra que vous avez interprétés. Alors, voyons justement si nos chers auditeurs sauront les reconnaître.
Avec plaisir.
Vous nous direz tout juste
bien
après.
Sûr. Oh,
Sur IDFM Radio, vous venez d'entendre le contre-ténor Antoine Fortier qui a interprété plusieurs extraits d'opéra. Antoine, pouvez-vous indiquer à nos auditeurs quels sont les extraits que nous venons d'entendre?
Alors, il y avait un extrait du Giustino. C'est un opéra de 1724 de Vivaldi où j'interprète le rôle d'Anastasio, voilà, dans cet air déchirant, Vedrò con mio diletto. On a entendu aussi Rossini. Je chante le rôle titre de son premier opéra assez important, Tancrède, avec Di tanti palpiti. Et il y avait un nouveau, c'est un extrait d'un autre opéra de Vivaldi. Décidément, c'est définitivement mon compositeur phare. C'est vrai que j'adore Vivaldi. Là, on a entendu Sposa son disprezzata de l'opéra Bajazet.
Eh bien, c'était magnifique et je suis sûre que nos auditeurs ont adoré.
Merci beaucoup.
En parlant de tous ces opéras, quel est justement le rôle que vous avez préféré interpréter jusqu'à présent?
Eh bien, écoutez, on y revient forcément. C'est vraiment un opéra de Vivaldi. Vivaldi dans son œuvre générale, mais vraiment Orlando, le rôle d'Orlando dans l'Orlando Furioso de Vivaldi. Voilà, sans aucune hésitation, ce que j'aime chez Vivaldi de toute façon, c'est la grande théâtralité et la grande humanité de sa musique. Voilà, je trouve qu'on y trouve vraiment une force, une joie de vivre dans ses airs de bravoure notamment, mais également un amour de la vie, beaucoup d'espérance et de naïveté. Et à partir du moment où la cassure a lieu, finalement, dans l'Orlando Furioso, il n'y a plus d'air, voilà, seulement des arioso qui demandent un grand investissement de la part du chanteur. Je me sens bien chez Vivaldi, je me sens un petit peu chez moi, car il y a aussi une grande fragilité. Voilà, qui demande une grande implication théâtrale pour lutter contre l'ennui. Voilà, sa musique est très exigeante à Vivaldi, mais quand tout est mis en place pour qu'elle fonctionne, bah, c'est superbe.
Vous avez été récompensé par de nombreux prix lors de votre participation à des concours de renommée internationale, notamment le prix d'excellence au concours international d'art lyrique des Clés d'Or en 2016 et le grand prix spécial de la voix de l'Académie internationale de la ville de Nice en 2021. Pouvez-vous expliquer aux auditeurs d'IDFM comment se déroule un concours de chant lyrique international et quels sont les critères retenus pour évaluer la performance des chanteurs?
Oula. Vous savez, déjà c'est terrible, mais je ne suis bien que sur scène. Autrement, je ne suis que doute. Donc c'est vrai que quand on me décerne un prix, bon, déjà je m'y attends jamais. Je me souviens qu'en classe de chant, je décelais toujours le talent des autres, mais alors le monde était trop vaste pour que le mien s'y épanouisse. Pourtant, je me voyais très bien réussir, hein. Certains signes m'encourageaient à penser que ça marcherait pour moi, mais moi, je suis pas du genre à me donner de faux espoirs. Voilà, donc je pars toujours un petit peu pas perdant, mais en tout cas, je m'attends pas à grand-chose pour pas être déçu. Mais c'est toujours, voilà, du coup, un immense bonheur et de recevoir ces prix et une reconnaissance du métier, surtout. Donc, c'est vraiment de grands moments de joie. Alors, dans un concours de chant lyrique, pour répondre à votre question, alors on vous demande à la fois la perfection technique sur un moment défini et une profondeur également dans l'interprétation. Ajoutez à ça plusieurs tours, les éliminatoires, les demi-finales, les finales. Donc finalement, après plusieurs épreuves, si vous avez la chance d'être nommé grand vainqueur, bah c'est plus qu'une joie, c'est voilà, comme je disais, une vraie reconnaissance du travail accompli et du métier. Bon, j'ai eu cette chance. J'aime chanter, faire de la musique et je suis ravi d'être parvenu à accomplir ce rêve, c'est vrai. Je pense qu'il y avait quand même tout de même une bonne étoile sur mon chemin.
Antoine Fortier, nous allons maintenant aborder une autre de vos passions, le théâtre.
Ah.
Et oui. Alors, je rappelle aux auditeurs que vous êtes contre-ténor français, chanteur lyrique professionnel. Et vous vous êtes également formé au célèbre cours d'art dramatique René Simon à Paris auprès de la professeure Cecilia Ward. Qu'est-ce qui vous a amené à ces cours d'art dramatique, Antoine ?
Oh oui, Cecilia, je l'adore. Je l'embrasse, elle nous écoute aussi. J'ai beaucoup appris aussi à ses côtés. Les rôles déjà que nous offrent les œuvres d'opéra, c'est à la fois une solide technique vocale, oui, mais c'est également l'interprétation, le théâtre, qui nous aide à maîtriser tous ces paramètres. Il y a le travail qui est fait avec le chef d'orchestre, le chef de chant, le metteur en scène, bon, qui vont généralement dans ce sens. Et c'est la confirmation de ce que je pressens dans mon corps, le mouvement qui vient compléter l'intention vocale. Voilà, c'est vraiment un véritable aboutissement. Et j'ai eu l'immense chance de commencer le théâtre très jeune, c'est vrai, avec une rencontre tout particulièrement, celle avec Daniel Dancourt, voilà, un sociétaire de la Comédie Française et immense comédien qui a commencé notamment avec Gérard Philippe. C'était mon professeur de théâtre au lycée et il m'a donné le goût de l'interprétation, le goût du théâtre, d'apprendre à interpréter différents rôles. Et c'est vrai, oui, que j'ai poursuivi ensuite cette deuxième vocation au sein du cours Simon. Et j'en garde de merveilleux souvenirs. J'ai interprété notamment sur scène Mascari dans Les Précieuses Ridicules de Molière, où on m'a fait tout naturellement chanter, bien évidemment. Mais ça, c'était un rôle formidable à jouer. Et non, un autre rôle aussi que j'ai beaucoup aimé interpréter, plus dramatique, c'est le rôle de Charles VII dans L'Alouette de Jean Anouilh. Et là, je vous en parle finalement parce que j'ai découvert assez récemment que c'est Michel Bouquet qui avait créé ce rôle au départ. Et bon, on a forcément une pensée pour lui, pour cet immense comédien qui vient de nous quitter, là, il n'y a pas très longtemps, le mois dernier.
Ce goût pour la scène, vous nous le disiez, pour le théâtre, ainsi que votre passion pour le chant, eh bien, vous les avez mêlés pour la première fois en 2014. Racontez-nous cette expérience inédite.
Oui, je pense que cette idée de combiner chant et jeu a toujours fait partie de moi, et ce, dès le départ. On a envie de jouer quand on est enfant, c'est on ne pense et on ne vit que par le jeu, finalement. Je me suis senti tout de suite attiré par ça, par le jeu. Et c'est vrai, oui, qu'en 2014, j'ai eu cette idée de mêler ma voix à celle de la voix déjà reconnaissable, percutante, du grand comédien Alain Massé, bon, qui triomphait au même moment dans le site de Corneille. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, je n'avais encore jamais fait de vrai récital lyrique. Et voilà, comment est né finalement Entre Terre et Ciel, c'était le nom de mon premier récital, au Théâtre de la Comédie Nation à Paris. C'est la première fois où j'ai mêlé de façon aussi explicite finalement mes deux passions, du chant et du théâtre. Mais ça m'a paru finalement tout naturel. Scène, finalement, c'est un mélange incroyable de disciplines, de toute façon.
Après cette expérience, vous n'avez cessé de vous produire sur scène, interprétant opéra, opérette, création personnelle. Aujourd'hui, vous êtes reconnu par le métier et le public comme un artiste complet aux multiples facettes. Qu'est-ce qui fait votre singularité ? Qu'est-ce qui vous distingue des autres contre-ténors, Antoine ?
On évoquait tout à l'heure un répertoire. Au départ, c'est vrai, moins conventionnel, celui notamment des rôles travestis. Voilà, alors un rôle travesti en musique classique dans un opéra, c'est un rôle masculin interprété par une femme, ou inversement d'ailleurs parfois, un rôle féminin interprété par un homme. Ce qui est plus rare, je vous l'accorde. Mais à l'opéra, ce sont au départ généralement des mezzo-soprano qui les interprètent. Et puis aujourd'hui, effectivement, de par mon timbre de voix, bon, très proche finalement d'une mezzo-soprane, oui, c'est vrai, on me demande souvent d'interpréter ces rôles. Donc, Tancrède de Rossini, qu'on a pu entendre tout à l'heure un extrait, et Chérubin dans Les Noces de Figaro, que j'ai interprété plusieurs fois. Il y a aussi le rôle de Zibelle dans l'opéra Faust de Gounod, par exemple. On revient, comme c'était un peu le cas au XVIIe et XVIIIe siècle, où la plupart des rôles principaux étaient chantés par les castrats. Et même parfois, les castrats, d'ailleurs, interpréteraient les rôles féminins. C'était notamment le cas en Italie, c'est vrai, où les femmes, faut quand même le rappeler, étaient interdites de jouer sur scène à cette époque. On est seulement deux contre-ténors au monde aujourd'hui à avoir, par exemple, chanté le rôle de Sesto dans La Clémence de Titus de Mozart. Je l'ai interprété en 2019. Et donc, c'est un rôle qui a été chanté pendant des décennies par des mezzo-sopranos. Donc, voilà, ça revient doucement. Mais il faut, c'est vrai, avoir cette voix, certes agile dans les aigus et les vocalises, mais aussi une profondeur et une musicalité dans les médiums et les graves pour pouvoir incarner et interpréter pleinement ces rôles travestis sans dénaturer finalement la musique du compositeur.
Quels sont les lieux dans lesquels vous vous êtes produit et qui vous ont, mais vraiment, vraiment marqué?
Vous savez, dans un théâtre, dans une salle de spectacle, je pense que c'est avant tout les liens humains qui font que l'on se sent bien dans un théâtre, dans une salle. Il faut surtout accorder une pleine confiance à un directeur d'une maison d'opéra, à sa politique culturelle, qui passe par un soutien sans faille aux jeunes chanteurs d'ailleurs. Et il y a des théâtres où, c'est vrai, où dès qu'on met un pied, on ressent toujours des bonnes vibrations. Les couloirs, le plateau, les loges, bon, tout est chargé du passage laissé par les gens que l'on aime et que l'on a plaisir à retrouver d'ailleurs régulièrement, parfois sur scène. Et c'est vrai, j'ai conservé de formidables souvenirs, par exemple au théâtre donc de la Comédie Nation, forcément, au théâtre des Jazets aussi, à Paris toujours, plus récemment aussi à la Folie Théâtre. Et j'ai chanté aussi dans des lieux plus conventionnels, mais alors non moins magiques, comme l'Oratoire du Louvre par exemple, ou la Salle Cortot toujours à Paris. Et moi, j'y ai vraiment conservé de très très bons souvenirs.
Vous êtes encore tout jeune. Tout juste 31 ans et j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter un très bon anniversaire, Antoine. Eh bien oui, car c'est aujourd'hui même, le 7 mai, bon anniversaire.
Oh bah écoutez, merci, c'est adorable. Moi qui adore le fêter.
Il blague.
Mais je suis ravie d'être avec vous en ce jour spécial.
Eh bien,
merci
nous aussi.
Beaucoup.
Merci. Vous êtes donc encore tout jeune, comme je disais, et vous vous êtes déjà produit aux côtés des plus grands. Alors, pour exemple, je cite le comédien classique Alain Massé, dont vous nous parliez tout à l'heure, et la soprano coloratour et jurée de l'émission de musique et danse classique Prodige, diffusée sur France 2, Elisabeth Vidal. D'ailleurs, vous avez une tournée estivale qui s'annonce avec elle, il me semble.
Oui, je suis vraiment ravie de retrouver Elisabeth Vidal sur cette tournée cet été. Bah écoutez, on va interpréter ensemble les plus beaux duos du répertoire et évidemment de nombreux airs d'opéra. Bon, je suis excitée d'avance par ces rendez-vous.
Merci beaucoup, Antoine. Alors, nous allons terminer l'interview, Antoine Fortier, par une chanson hommage qui vous tient vraiment à cœur.
Oui, bah écoutez, une chanson d'une artiste, d'une femme que j'aime énormément et qui était surtout, je pense d'ailleurs, voilà, une femme libre, qui a fait ses propres choix. Et ça me tenait vraiment à cœur de lui rendre hommage aujourd'hui, car c'est vrai que ça fait quelques jours, le 3 mai précisément, ça fait 35 ans que Dalida nous a quittés. Et vous savez, dans la vie, j'ai jamais aimé les chemins prédéfinis, les lignes toutes droites. Voilà, moi j'aime bien, j'adore les chemins de traverse. Bon, j'ai une nature assez aventureuse et curieuse. Et c'est vrai que c'est essentiel, je pense, d'être fidèle à cette volonté de mener sa vie comme on l'entend. Et même d'en avoir 1000 au lieu d'une si on le souhaite. C'est important de ne pas être docile. Et c'est cette liberté de choix de vie, comme elle le disait dans la chanson que j'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui, à ma manière. Et merci de me faire ce cadeau aussi, de pouvoir l'écouter aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir.
Avec grand plaisir, Antoine. Merci beaucoup à vous. Merci d'être venu dans nos locaux d'IDFM. C'était vraiment un plaisir et un honneur, je tiens à le dire, de vous recevoir sur nos ondes.
Ben écoutez, merci à vous. Merci pour l'invitation. J'ai été ravie d'être avec vous.
Avec des faux pas, des faux plis, chacun de nous porte sa vie à sa manière. Quand on est beau au fond de soi, un jour ou l'autre quelqu'un nous voit à sa manière. Même sous la pluie des mauvais jours, j'ai suivi la ligne d'amour à ma manière. Pour tous les chagrins que je traîne, j'ai mis mon cœur en quarantaine à ma manière. Ma vie, je n'en ai qu'une, mais je la veux, libre et sans loi, j'en ai le droit, elle est à moi. Bye. Ma vie n'est pas vraiment ma vie, elle est à ceux qui m'ont choisi à leur manière. En laissant mon nom dans les rues, j'ai mis mon bonheur par-dessus à ma manière. Et le soir où je m'en irai, finalement je le ferai à ma manière. J'aimerais autour des rainières à faire, faire mes adieux au soleil à ma manière.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio. Antoine sera en tournée dans le sud de la France cet été. Il passera notamment par Perpignan, Marseille et Nice avant de revenir en région parisienne. Retrouvez toutes les actualités d'Antoine Fortier sur son site internet antoinefortier.com, antoinefortier.com, et sur son compte Instagram Antoine Fortier @IAMCrazySinger, qui s'écrit IAMACRAZYSINGER. Donc Antoine Fortier, I am a crazy singer. C'est l'heure de retrouver l'agenda culturel près de chez vous. Le samedi 14 mai prochain, la ville d'Arnouville organise une soirée dédiée aux cultures urbaines. Au programme, des battles de hip-hop animés par Rabibou Plémokébé, chorégraphe et speaker mondialement reconnu. Du stand-up avec Ahmed Sparrow, Jimo ainsi qu'Hakim Jemili, qui s'est lancé sur YouTube avec son collectif Le Whoop. Et il s'est récemment révélé au grand public dans la série de Franck Gastambide. Et également un concert de Rimk. Rendez-vous le samedi 14 mai à 18h à la salle L'Essentiel de l'espace Charles Aznavour, situé avenue Paul Vaillant Couturier à Arnouville. Le tarif est attractif, le taux plein est à 14€ et le tarif réduit est de 7€. Réservez vos places sur la billetterie en ligne billetterie.arnouville95.fr ou au 01 34 45 97 19. 01 34 45 97 19. Le samedi 21 mai, à la salle des fêtes de Montesson, située place Roland Gauthier, ne manquez pas l'affaire Chapelle, interprétée par la section adulte du cours de théâtre de Floriane Barret, que je recevais récemment dans mon émission. L'entrée est gratuite, un chapeau sera à votre disposition si vous souhaitez donner une participation financière à l'issue de la représentation. Jusqu'au 8 juin, vous pouvez vous rendre le lundi et le mercredi au théâtre Le Funambule, situé à proximité de Montmartre, pour voir une comédie déjantée mise en scène par Anaïs Alric. L'épopée du buveur d'eau est une pièce adaptée du roman de John Irving. À la galerie de Mézières, située à Aubonne, venez découvrir du 10 au 15 mai l'artiste Marie-Paul de Marquez à travers ses peintures, gravures et linogravures. Marie-Paul de Marquez nous invite dans ses rêves et notamment à Venise en utilisant différentes techniques de gravure. À Bougival, dans les Yvelines, vous pourrez assister les 10, 17 et 24 mai à un festival de courts-métrages intitulé « Cours maintenant » et organisé par Franck Buireau, un auteur et metteur en scène que j'avais reçu en janvier dans mon émission. Renseignez-vous auprès de Franck Buireau via les réseaux sociaux sur Instagram et Facebook. C'était Culturez-vous sur IDFM Radio. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec l'émission Empreinte sur votre radio préférée. Je vous dis à samedi prochain, 10h30, sur le 98 de la bande FM. J'aurai le plaisir d'accueillir des élèves de première du lycée Jean-Jacques Rousseau de Montmorency pour le troisième volet de leur saga culturelle. Excellent week-end à tous.